Vive flamme d'amour, ô vive flamme, Esprit Saint,
alors ce soir, je voudrais vous parler un peu de la beauté, parce que c'était le sujet, avec Saint Jean de la Croix. Alors j'étais parti sur un... Voilà, il devait y avoir un diptyque, mais vous n'aurez pas le diptyque, il n'y aura que la première partie, parce que je me suis un peu emballé, donc c'est parti. Donc voilà. Mais vous avez des textes pour suivre, alors je ne suis pas sûr qu'on les fera tous, mais vous pourrez les garder et puis les lire. Je vous fais un petit fioretti. Et je voudrais partager avec vous quelques éclats, quelques miettes sur la beauté. Et donc la phrase de Divo Barzotti, hein, qui est un Italien, qui a écrit des livres assez connus il y a quelques années. C'est un peu le plan, vous voyez. Au fond, la beauté, c'est la gloire de Dieu qui resplendit dans la création. C'est Dieu qui vit dans l'homme. C'est la sainteté. Je vous ai mis un premier texte qui fait référence à un texte que vous pouvez trouver là. Tout ce qu'il faut pour le trouver sur le Vatican. Voilà. Un texte que le Conseil pontifical pour la culture a écrit en 2006, hein, sur vraiment la voie de la beauté, comme vraiment une expérience qui peut ouvrir à la rencontre avec Dieu. Hein. C'est un peu le premier texte que je vous ai mis. La voie de la beauté, à partir de l'expérience toute simple de la rencontre avec la beauté, qui suscite l'émerveillement, peut ouvrir le chemin de la recherche de Dieu et disposer le cœur et l'esprit à la rencontre du Christ, la beauté de la sainteté incarnée, offerte par Dieu aux hommes pour leur salut. Et elle invite les nouveaux Augustins de notre temps, chercheurs insatiables d'amour, de vérité et de beauté, à s'élever de la beauté sensible à la beauté éternelle et à découvrir avec ferveur le Dieu Saint, l'auteur de toute beauté. Alors c'est la première chose que je voudrais souligner avec vous, puis avec la Bible, avec le livre de la sagesse, vous voyez, c'est que... Nous faisons tous l'expérience de la beauté des créatures, de la beauté de la création. Regardez-vous, regardons-nous les uns les autres, comme vous êtes beaux. Voilà. Une fleur est beau, est belle aussi. Un paysage, je suis sûr que vous avez tous été émerveillés un jour ou l'autre par la beauté d'un paysage, d'une peinture, d'un visage. Et pour le livre de la sagesse, eh bien, cette beauté que nous pouvons voir dans la création ou dans l'art, elle est un reflet de celui qui est la beauté par excellence et qui est Dieu. Je prends la fin du texte de la sagesse, là vous pouvez tourner la page. Donc la sagesse, vous savez que c'est un texte de l'Ancien Testament. Donc c'est le dernier paragraphe. « Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. » Donc vous voyez, c'est un texte très important en théologie, mais bon, je n'ai pas le temps de creuser, mais vous voyez, la beauté que nous pouvons voir dans les créatures, dans la création, nous attire vers une beauté supérieure, enfin qui dépasse toute beauté, qui est celle même de Dieu. Et alors le texte dit aussi en même temps, voilà, c'est quoi l'idolâtrie, c'est quoi, vous voyez, on peut être pris par le piège de la beauté des créatures, voyez. C'est-à-dire s'arrêter à la beauté des créatures, et ce n'est plus un tremplin pour aller vers Dieu. Et le texte continue, c'est ça qui est très beau. Ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. C'est-à-dire ceux qui sont arrêtés simplement à la beauté des créatures ne méritent qu'un blâme léger. Pourquoi ? Car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Et pourquoi ils se sont égarés ? Parce que plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Il ne faut pas trop blâmer les gens qui s'arrêtent à la beauté, parce que les choses sont belles. Et on peut se faire prendre dedans, et ne plus voir, voilà, en fait c'est un dynamisme pour remonter à une beauté supérieure. Je creuserai ça un petit peu après. Mais voilà, c'est très drôle dans la sagesse, alors qu'il est très dur contre tout ce qui est l'ordre de l'idolâtrie, etc. Mais les gens qui se sont égarés à cause de la beauté des choses, vous voyez, le texte dit, il ne faut pas trop les blâmer. Je voudrais faire aussi un autre point avant de commencer, quelque chose qui... Je vais citer pas mal Saint Jean de la Croix. Vous savez que Saint Jean de la Croix, c'est un des poètes, un des plus grands poètes espagnols, hein, considéré comme un des plus grands poètes espagnols, peut-être même le plus grand. C'était un homme qui était épris de beauté. Ce qui me frappe chez lui, c'est... comment dire? Cette sensibilité qu'il avait l'a sûrement aidé, voyez, à exprimer l'expérience qu'il faisait de Dieu, ses sentiments intérieurs, d'une façon belle, à travers la poésie, à travers les commentaires. Et donc, je crois que Saint Jean de la Croix, il nous invite à une éducation de notre sensibilité, à nous laisser, à comment dire, à éduquer nos sens, voyez, à la beauté, pour pouvoir exprimer d'une manière belle et bonne, voyez, nos sentiments intérieurs. Donc Saint Jean de la Croix, c'est pas quelqu'un qui rejetait la sensibilité, qui rejetait la beauté des choses sensibles, parce que souvent on en fait un mystique qui dépasse tout, et c'est vrai, nous verrons, pour remonter à celui qui est la beauté, qui est Dieu. Mais en même temps, voyez, s'il n'avait pas imprégné son imagination, son intelligence, ses sens de tant de beauté, peut-être qu'il n'aurait pas pu exprimer sa relation avec Dieu d'une manière si forte et si belle, voyez, qui nous attire profondément. Et donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je... Vous voyez? Pour pouvoir vivre, enfin exprimer les choses belles que je vis, etc., il faut voir des choses belles, il faut éduquer ma sensibilité et faire attention à ce que je regarde, à ce que je vois, etc. Parce que la laideur aussi existe et je pourrais peut-être aussi enlaidir ce que je vis intérieurement. D'accord. Bon. Alors, avant de revenir à Jean de la Croix, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus, sur cette... En essayant de faire un peu une expérience de la beauté. Et qui de nous, alors qu'il cheminait sur un chemin de montagne, par exemple, ou en forêt, n'a pas été saisi par la beauté d'un paysage? Par l'apparition subite d'un animal, la découverte d'une fleur fragile et en même temps rayonnante, hein, de cette beauté indicible, qui de nous n'a pas été saisi par un geste, un visage, une parole. Alors, je voudrais prendre l'exemple d'un tableau, maintenant je vais dans l'art plutôt que la création, dans l'art, une nature morte. Vous savez tout ce que c'est qu'une nature morte? Vous savez, c'est ces peintures où tout d'un coup on va vous peindre une orange ou un fruit ou un animal, un gibier, un poisson, etc. Alors j'aime pas trop le titre nature morte, en allemand c'est Lebensstille, donc c'est la vie silencieuse, donc c'est beaucoup plus juste. Et pourquoi en fait on fait des natures mortes? Vous voyez, imaginez une nature morte où sur la table il y a un poisson. Puis il y a des légumes, puis il y a des couteaux. Voilà, c'est un tableau célèbre. Et qu'est-ce qui se passe à travers cette nature morte? Eh bien, le banal, oui, le banal que je suis obligé de regarder. Eh bien, il devient extraordinaire. Ce pauvre animal, cette carpe-là, qui normalement est destinée à finir dans nos estomacs, eh bien, tout d'un coup, elle me saisit. Là. Le fait qu'elle soit peinte comme ça, à l'arrêt, pour la première fois, je regarde un poisson. Oui. Comme si j'étais toujours passé à côté de ce qu'est un poisson, de son être, etc. Vous voyez, la beauté, les Grecs faisaient un jeu de mots. En grec, la beauté se dit kalos. Kalos, kaléo. Et il y a un autre verbe en grec qui est appelé, kalein. Qui a donné église, ecclésia, en fait. Et les Grecs faisaient un jeu de mots en disant la beauté, c'est ce qui appelle. La beauté est un appel. C'est là-dessus que je voudrais insister. Oui, la beauté, c'est quelque chose, c'est d'abord quelque chose qui vient nous blesser, nous saisir, alors même que nous sommes toujours pris dans une réalité où nous devons faire des choses, où nous devons être efficaces, où nous devons produire, où nous utilisons les choses ou les êtres, où nous agissons toujours pour un but. Et voilà qu'à travers une multitude d'expériences, quelque chose de beau vient me blesser, vient m'arracher à cette perpétuelle utilisation des choses et des êtres pour m'ouvrir à une dimension plus profonde de la réalité. Ou plutôt, c'est la réalité elle-même qui vient me toucher, me blesser, dans une profondeur que je ne soupçonnais pas. Et voilà que devant telle ou telle beauté, vous voyez, une secrète nostalgie se fait jour. Je crois que c'est très lié à l'expérience de la beauté. Vous voyez, devant l'harmonie, le calme, la paix, par exemple, de ce paysage qui m'a saisi, devant la splendeur de la carpe, hein, sur laquelle la lumière se diffractant sur les écailles crée ainsi des milliers de soleils, quelque chose d'un secret désir de paix et d'harmonie peut me submerger. Dans l'expérience de la beauté, il y a aussi une sorte d'expérience de l'harmonie de mon être, vous voyez, où mon intelligence, mais aussi ma sensibilité, mes sens, tout d'un coup, tout a l'air d'être pris et à l'équilibre. Ça, c'est l'expérience de la beauté. J'ai l'impression qu'une réconciliation est possible avec les êtres et avec moi-même. Vous voyez, la beauté, c'est toujours une expérience qui nous blesse parce qu'elle nous appelle, parce qu'elle nous interpelle. Et elle nous interpelle tout entier. Non seulement notre intelligence, notre être spirituel, mais aussi notre être sensible. Oui. C'est ça l'expérience de la beauté. Je crois que toute grande œuvre d'art, toute expérience de la beauté à travers des créatures, voyez, fait surgir non pas un monde possible, voyez, non pas un au-delà du monde, mais la possibilité d'un monde ici et présent que je n'avais pas encore vu. Si vous voulez, la beauté, ça va? Ça va? La beauté, c'est la manifestation d'un excès. Alors, il faudra s'interroger, c'est d'où vient cet excès, d'où vient cet appel? Eh bien, je crois que le livre de la sagesse nous le dit, vous voyez, d'une manière, dans notre foi, vous voyez, cet appel, cet excès, eh bien, il vient de Dieu lui-même. Vous voyez, à travers la beauté des créatures, à travers la beauté de l'art, c'est la splendeur de la gloire de Dieu qui vient à nous. C'est pour ça que ça nous blesse profondément, et que ça nous arrache, vous voyez, que ça nous appelle. Alors, je ne vous l'ai pas mis là-dedans, hein, mais je pourrais le rajouter après, mais... C'est saint Augustin qui dit, hein, dans le sermon 241, « Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Toutes te répondront, vois, nous sommes belles. Leur beauté est une confession. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites? Sinon le beau nom sujet au changement. Sinon le beau, B-E-A-U avec un B-E-A-U, qui n'est pas sujet au changement. Vous voyez, les créatures, leur être, vous voyez, est confession. À travers leur beauté, elles confessent, mais elles confessent qui? Elles confessent Dieu. Ouais. Nous ne sommes pas la beauté, ouais, mais nous renvoyons à celui qui nous a créés, oui. Ce Dieu artiste, ce Dieu magnifique, ce Dieu qui est beauté, qui est Dieu lui-même. François d'Assise disait « Tu es beauté, tu es beauté ». Et saint Bonaventure commençait ainsi, hein, il contemplait dans les belles choses le très beau, et en suivant les traces imprimées dans les créatures, il poursuivait partout le bien-aimé. Et pour saint Jean de la Croix, on va voir un petit peu des textes maintenant, eh bien, la beauté, hein, est un chemin vers Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est beau dans la création, dans l'art, etc., est une sorte d'empreinte fugitive, hein, une trace du passage de Dieu. Alors, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a plein de textes, mais bon, c'est pour vous faire goûter aussi un peu. Ça va? Ça va? Oui. Alors, donc, il y a une petite histoire, je vous ai mis pour bien comprendre, je ne vous ai pas mis tous les poèmes après, vous irez voir si vous êtes intéressé. Voilà. Mais alors, il y a une fioriti, enfin une histoire. Saint Jean de la Croix, un jour, est à Béas, donc c'est assez tard dans son existence. Et il confesse une sœur de 20 ans, Françoise de la Mère de Dieu, et... oui, bah oui, à cette époque, c'est ça. Ouais. Alors, saint Jean de la Croix lui demande, mais à quoi elle passe son temps à faire oraison? Et alors, Françoise de la Mère de Dieu lui répond, elle lui dit qu'elle pensait à la beauté de Dieu et qu'elle se réjouissait de ce qu'il lut. Et alors, ça émoustiche, hein, enfin ça, tout ce que ça fait exulter saint Jean de la Croix. Voilà. Et on dit qu'il en conçut une telle joie que pendant quelques jours on l'entendit parler de la beauté de Dieu d'une manière sublime, extraordinaire quoi. Et alors il composa 5 strophes du cantique spirituel. Donc les strophes 35 à 39, je vous ai mis que la 35. Vous savez que le cantique spirituel, c'est il compose les premières strophes quand il est dans son cachot à Tolède, hein, pendant les 9 mois qu'il passe là dans cet enfer, et il compose mentalement les premières strophes du cantique spirituel, et puis il va en rajouter quelques-unes. Et donc ces 5 strophes rajoutées, là, c'est lié à cette histoire avec Françoise la Mère de Dieu, sur la beauté de Dieu. Et alors vous voyez, réjouissons-nous bien-aimés, allons-nous voir en ta beauté, sur la montagne ou son penchant, d'où jaillit l'onde pure, dans la masse compacte, enfonçons plus avant.
Que Dieu soit beau.
Comment? Ça veut dire que...
Non,
oui, vas-y. Ah oui, c'est ça. Elle se réjouit que Dieu soit beau, et simplement parce qu'il l'est. Voilà. Donc pour elle contemple
Dieu. Il lut la beauté. La beauté.
Et qu'il lut la beauté. La beauté, voilà.
Que Dieu soit beau. Quoi.
Voilà. Voilà. Il l'a même pas. Il l'a.
Parce qu'il
lut
la beauté.
J'ai mis un peu de temps.
Parce que lui, ça peut aussi elle.
Oui,
elle,
tout à fait.
Non. C'est Dieu. Oui, pardon, elle parle de Dieu. Et alors, après, devant la contemplation d'un paysage à Grenade, je vous ai mis un autre poème. Je vous ai mis que 2 strophes sur les 9. Où là, Jean de la Croix chante l'unique beauté de Dieu. C'est un très beau texte. Et ça reprend, si vous voulez, cette espèce de blessure que nous fait la beauté. En nous arrachant, vous voyez, à cet univers fonctionnel dans lequel nous vivons, et qui crée cette espèce de mouvement pour rejoindre Dieu. Voyez. Donc il dit, hein, « Jamais les beautés de ce monde ne me rendront épris d'amour, mais il est un je ne sais quoi que mon cœur brûle d'obtenir. » C'est-à-dire qu'à travers la beauté des réalités, il y a ce je ne sais quoi, en fait c'est cet appel de Dieu à travers la beauté, qui le fait désirer rejoindre cette vraie beauté, vous voyez, qui met en son cœur ce désir, cette nostalgie de rejoindre Dieu qui est la beauté, vous voyez, et non plus en avoir une parcelle, quoi, vous voyez. Et je vous ai mis la dernière strophe, tout ce que l'on peut percevoir ici-bas au moyen des sens, et tout ce que l'on peut comprendre de plus sublime et de plus haut, donc vous voyez, sensibilité, intelligence, toujours l'être entier. Vous voyez, la beauté vient rejoindre vraiment notre être dans sa composition charnelle et spirituelle. Vous voyez, toujours. Ce qui est gracieux et beau ne peut me prendre épris d'amour, mais il est un je ne sais quoi que mon cœur brûle d'obtenir. Vous voyez, il y a toujours, en même temps, à travers cette manifestation de Dieu, une insatisfaction parce que ce n'est pas Dieu qui est donné. Vous voyez. Et donc, on est insatisfait quant à la manière de Dieu se manifeste, hein, à travers les messagers de sa création. Après, bien sûr, être passé à l'insatisfaction des goûts et des plaisirs de la terre qui sont vraiment rien comparé à la beauté de Dieu. Mais...
De blessure, du coup c'est vraiment cette insatisfaction.
Oui, je pense. Alors le thème de la blessure, c'est un thème très important, c'est changeant de la croix. Me prenez pas là-dessus, parce que mais ça rejoint ça exactement. Mais parce qu'en même temps, une blessure, je sais pas si vous avez déjà réfléchi bien à ce qu'est une blessure. Les médecins, on a beaucoup de médecins ici, donc peut-être qu'ils ils vont me donner la définition médicale de la blessure, mais sauront-ils voir la définition poétique de la blessure? Et quand on est blessé, la blessure laisse une empreinte de celui qui nous a blessés sans qu'il soit celui qui nous a blessés. Mmh. Eh oui.
Si je te mets un coup de couteau, tu cicatrises, t'as la marque du couteau, c'est pas un
problème. Il y a la marque du couteau, mais c'est pas le couteau. Donc du coup, la beauté nous blesse dans le sens où c'est Dieu qui vient nous toucher, qui laisse quelque chose, mais il se retire d'une certaine manière. Oui. Il vient nous toucher par la créature qui est belle. Et donc la beauté nous touche, elle crée comme une blessure. Parce que c'est Dieu, d'une certaine manière, qui nous touche, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Et donc la blessure nous arrache, vous voyez, pour aller plus loin. Voilà ce qu'est la beauté pour Saint Jean de la Croix. Voyez. Et le mouvement qu'elle va créer. Oui, c'est... Alors, c'est là où c'est paradoxal, si vous voulez. Je continue. Ça va? J'ai pas largué tout le monde, non, c'est bon, là. C'est bon. À travers la beauté des êtres et des œuvres, hein, nous découvrons un secret appel de celui qui est la beauté en personne. Et en même temps, nous faisons l'expérience de la beauté pour des créatures elles-mêmes. Vous voyez, les créatures ne sont pas simplement un marchepied qui vont me permettre d'atteindre Dieu. Elles ont leur propre beauté, vous voyez, elles ont leur consistance. Mais à travers la beauté, nous faisons, une expérience nouvelle du monde que nous habitons. Parce que nous habitons toujours le monde sur une manière un peu fonctionnelle, vous voyez, utilisatrice, avec un but toujours, ou sans regarder les choses, en usant des choses. Vous voyez. Et là, alors je vais dire deux, trois petites choses. Alors, quelle est cette expérience nouvelle? Je pense que la beauté nous fait devenir contemplatifs. Et c'était ce que disait le premier texte de la commission pontificale. La beauté des êtres, la beauté d'un paysage, crée en nous, nous fait devenir des êtres émerveillés. Voilà, hein. L'homme, il est fait pas simplement pour utiliser les choses, il est fait pour contempler les choses, il est fait pour s'émerveiller de l'existence même des choses. Oui, la beauté profonde de tout être, c'est qu'il est, c'est qu'il existe. Voyez. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? C'est pour ça qu'un jour, on peut être saisi par la beauté fragile d'un brin d'herbe. C'est un grand philosophe du XXe siècle, un grand historien de la philosophie qui s'appelle Étienne Gilson, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, et dans un texte qu'on a de lui, qui est assez étonnant, ou un texte très objectif, certainement il fait une confidence, et il raconte la première fois qu'il a fait l'expérience de l'être. De l'acte d'être, de ce que les choses sont. Hein?
Je ne comprends pas l'acte d'être. Parce que être, c'est un état, pas un acte.
Ah non, si, c'est d'abord un acte. C'est le fait que tu pourrais ne pas être. Toi, le fait que tu es simplement toi, c'est que tu surgis du néant, que tu te tiens au-dessus du néant, chacun de nous. Je vous fais faire un peu de métaphysique ce soir. Mais et c'est pas simplement un ce que c'est, tu vois, c'est pas simplement dire, voilà, c'est qui tu es, indépendamment de ça, c'est ce qu'on va appeler l'essence d'une chose, tu vois, le ce que c'est. Non, le fait que tout d'un coup, c'est, je pose un jugement d'existence, voyez, cette chose, enfin, voilà, ça ne pourrait ne pas être là. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien.
C'est magnifique, hein? Mais je vous assure, vous avez tous un cœur de poète et tous un cœur de métaphysicien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, parce qu'on a des cas
dans cette...
Et ça, c'est l'émerveillement, oui. La capacité d'émerveillement sur le réel.
On n'est pas sûr que tu existes.
Qu'est-ce qu'il y a ?
On parle de Descartes.
Mais je ne parle pas de Descartes. Là. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous avez un psychanalyste qui était phénoménologue, qui s'appelle Biswanger, vous ne connaissez peut-être pas. Et alors, il raconte le cas d'un patient, c'est très très beau. Un patient qui voulait aller se suicider, donc qui avait pris ses affaires, qui partait en forêt, et il voulait se pendre à un arbre. Et tout d'un coup, il y a une sorte de belette qui est passée devant lui, et il a été saisi par cet animal, par la beauté de cet animal, par l'existence de cet être. Et ça, bon, il a renoncé il s'est émerveillé. Et Biswanger, voilà, il a renoncé à se suicider à travers cette expérience, voyez, de l'existence, de la beauté fragile, hein, voyez, qui est passée par un petit être.
Mais c'est chaud quand même.
Oui, c'est chaud. Biswanger, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué à lire, mais c'est un psychanalyste phénologue en même temps. Bon. Enfin bon, En même temps, c'est vrai que pour être la capacité de s'émerveiller et peut-être de voir la beauté des êtres, il faut un cœur pur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'expérience des sens, etc. Il y a une corrélation entre la manière de regarder et la pureté de l'intériorité, de la lampe de mon œil, quelle est-elle ? Après, je pense qu'à travers l'expérience de la beauté, ce que veut nous faire comprendre Jean de la Croix, c'est que l'univers est création. C'est un cosmos, comme disaient les Grecs. Qu'est-ce que je veux dire à travers là ? Je veux dire qu'à travers la beauté, nous pouvons faire l'expérience que le monde est un don. C'est quelque chose de donné. Le monde n'est plus une énergie à utiliser, une série causale, une mécanique, vous voyez, de la nécessité du hasard, vous voyez, un monde à démonter, à maîtriser, vous voyez, chiffrer, à exploiter. Non, à travers l'existence de la beauté, je découvre que le monde est un don, une grâce. Et donc je crois profondément qu'à travers la beauté, oui, nous pouvons faire l'expérience de la gratuité et du don. Et c'est ce que je vous disais, oui, les êtres me blessent de la flèche de leur beauté parce qu'ils me font pénétrer dans une plus grande profondeur de la réalité. Le monde, les êtres, sont dons. Ils sont pure gratuité d'un Dieu bon et vrai, généreux, rayonnant de sa splendeur et de sa gloire. Vous voyez, l'art, ça ne sert à rien. Le vrai art, ça ne sert à rien. À quoi ça sert un tableau ? À quoi ça sert une... Ça ne sert à rien. Mais ça manifeste une sorte de surabondance, de gratuité, de don. Alors, on fait un pas de plus. Ça va ? Alors, rendez-vous compte, si les êtres, si nous-mêmes, hein, nous sommes... Alors, quel est l'être le plus beau ? Ben, c'est l'homme, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il n'y a pas de plus beau témoin de la beauté qu'est Dieu que la beauté de l'homme, ce qu'on appellera la dignité de toute personne humaine. C'est pour ça que tout être humain est beau, qu'il soit dans les premières secondes de l'existence dans un ventre de femme, ou qu'il soit décharné à la dernière extrémité de souffle. Il est beau. Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de celui qui est la beauté. Alors, je vous ai mis un extrait d'une prière en numéro 5 de Saint Jean de la Croix, qui est ce qu'on appelle la prière de l'âme énamourée. Je vous ai juste mis la fin, c'est une prière extraordinaire. Voilà, vous pouvez la lire. Hein. Vous allez voir comment Saint Jean de la Croix, dans sa louange à Dieu, prend les créations, voilà, toute la beauté de la création, et fait tout remonter, voyez, vers Dieu. À moi sont les cieux, et à moi est la terre, et à moi sont les peuples. Les justes sont à moi, et à moi les pécheurs. Les anges sont à moi, et la mère de Dieu est à moi, et toutes les choses sont à moi. Et Dieu même est à moi, et pour moi, parce que le Christ est à moi, et tout entier pour moi. Que demandes-tu et que cherches-tu donc, mon âme ? À toi est tout ceci, et tout ceci est pour toi. Ne t'estime pas moindre. Ne prête pas attention aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Sors au dehors de toi-même et glorifie-toi en sa gloire. Cache-toi en elle et sois dans la joie, et tu obtiendras ce que ton cœur demande. Et puis je vous ai mis cette strophe magnifique du Cantique spirituel, donc Cantique spirituel B, pas le, bon, je ne rentre pas dans les détails, que peut-être vous connaissez déjà. Donc Saint Jean de la Croix là, vraiment s'adresse à Dieu. Voilà. C'est l'âme qui s'adresse à la personne qui s'adresse à Dieu, voilà, qui dit « Découvre-moi ta beauté ». Oui, nous ne sommes pas rassasiés par la beauté des créatures. Nous voulons celui qui est la beauté. Et Jean de la Croix il dit « Mais découvre-moi ta présence, que la vision de ta beauté me tue. » Donc il demande à Dieu « Révèle-toi à moi, oui, montre-toi pleinement, oui, et que je meure de ta beauté. Oui, » Qui pour l'amour est en peine, guérir ne peut, tu le sais, qu'en présence du visage de l'aimé. Vous voyez, nous qui avons fait l'expérience de la beauté, nous qui nous sommes blessés, vous voyez, nous ne voulons pas nous arrêter maintenant, si ce n'est avant la rencontre de ce visage empli de beauté, vous voyez, qui est Dieu, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve que c'est beau, voyez, de voir que bah, Dieu, ce n'est pas un gros papa gâteau ou un juge ou un gars qui va me dire « t'as mal fait, t'as mal fait ». Non, mais alors je ne sais pas, on a tous des sensibilités différentes, mais il y a une secrète blessure au fond de nous qui est cette nostalgie de voir Dieu qui est beau, quoi. Et donc, un amant, Dieu est un amant qui nous désire, qui nous blesse parce qu'il nous désire aussi, voyez, et que je veux, que nous voulons rejoindre. Voyez. Je trouve que vivre notre foi sous le mode du désir, voyez, d'absolu, comme ça, voilà, et de voir le visage de Dieu dans sa beauté, voilà, c'est l'expérience de Jean. Voyez. C'est ça que Jean veut nous traduire, voyez, à travers cette sensibilité qu'il avait, et nous dire, mais attention, Dieu, c'est un amant magnifique, en fait. Voyez. Et donc, n'ayez pas peur. Voyez. Et qui non seulement est beau, mais va vous révéler dans votre beauté, voyez. Alors, vous imaginez, qu'est-ce qui se passe le jour où celui qui est invisible et qui est la beauté, eh ben, décide de se manifester dans un visage d'homme. Car la beauté s'est incarnée en Jésus. Montre-moi ton visage. Nous l'avons, ce visage. C'est le visage de Jésus qui révèle et la beauté de Dieu et la beauté de l'homme. Alors on va juste lire, puis après je pourrais commenter un petit peu si vous voulez, le texte magnifique du cardinal Schönborn. Toute beauté créée est une participation à la beauté infinie de l'être de Dieu. Ça, on vient de voir, vous avez tout compris, là, c'est clair maintenant. Si cela est vrai, il faut faire un pas de plus et dire que le Verbe, donc à la deuxième personne de la Trinité, en se faisant chair, donc l'incarnation, a pour ainsi dire incarné la bonté et l'amour, la vérité et la beauté infinie de Dieu. Le Christ est le plus beau des enfants de l'homme. Vous savez, c'est un psaume. Hein, on dit, tu es le plus beau des enfants de l'homme. Et on attribue ce psaume après au Christ. Mais attention, non pas à cause de ses qualités esthétiques particulières, mais parce qu'il est la beauté incarnée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais dans aucun évangile, on a les traits de Jésus, on ne sait absolument rien sur Jésus de son physique. On ne sait pas s'il avait les yeux bleus ou rouges, on ne sait pas s'il avait les cheveux longs ou courts, on ne sait pas s'il était brun ou chauve, on sait rien. Et pourtant, quand on lit les évangiles, alors je ne pense pas qu'il ait des jours, mais il y a une sorte d'attirance, il y a quelque chose de beau dans le Christ, quand même. Mais ce n'est pas esthétique. Et vous voyez, hein, ce qu'il dit, c'est très fort. Hein, c'est pourquoi le Christ est beau ? Parce qu'il incarne la beauté. Oui. La beauté est apparue sur terre, non plus simplement des miettes à travers les créatures, et tout, mais la beauté en personne a foulé la terre. Oui. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on peut s'y perdre en Jésus. Oui. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors je continue. Tout son être est amour et vérité, bonté et beauté. S'il est donc vrai que le Christ peut dire de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il peut tout aussi justement dire « Je suis la beauté ». Le Christ peut dire de lui-même ce que seul Dieu peut dire « Je suis ». Alors, l'être, le vrai et le bien sont, selon le terme scolastique, convertibles. Alors, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que toute chose qui est vraie est en même temps bonne. Vous voyez, ce sont des reflets de l'être, en fait, vous voyez. Donc dès que vous avez de l'être, bah, si vous le regardez d'un certain aspect, vous pouvez dire qu'il est bon. Si vous le regardez d'un autre, il est beau. Si vous le regardez d'un autre, il est un. Si vous le regardez d'un autre, il est un quelque chose. Donc et on dit que tout ça, c'est convertible. C'est-à-dire qu'on peut... Il se croise, c'est la même chose. Mais laissons-le. Donc si le Christ est la vérité et la bonté, il est aussi ce qui est leur splendeur, la beauté. Vous voyez ? Il y a dans l'idée de beauté, l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'une manifestation. Il y a un débordement. La beauté, c'est ce qui se montre, ce qui montre. Et qu'est-ce qui va être manifesté dans la beauté du Christ ? Eh bien, qu'il est la bonté et la vérité. Vous voyez, il y a toujours un resplendissement. C'est quelque chose de très fort. Vous voyez, toute beauté demande à être exprimée. C'est ça l'art, vous voyez. C'est une sorte de redoublement, vous voyez. Prenez l'amant et devant sa femme, devant son amante, eh bien, il ne va pas pouvoir s'empêcher de dire qu'elle est belle et de le chanter, de le poétiser. Pourquoi ? Parce que c'est une manifestation. Vous voyez, il faut que la beauté soit manifestée. Il y a toujours un resplendissement. Alors, c'est ça l'art, ça redouble la beauté de la création. Oh, que tu es belle, ça n'apporte rien, elle est belle, enfin, vous voyez, mais je le manifeste, vous voyez, je le prends, c'est ça la gloire.
Il y a comme un aller-retour, du coup.
Oui, si tu veux, d'une certaine manière.
Parce qu'on a besoin de contempler, on a besoin d'exprimer.
Exactement, et ben voilà, c'est ça. Tu vois, et ça, c'est le mouvement de la gloire, de la manifestation de la beauté. Il ne me suffit pas de contempler, il faut aussi que je dise, que je manifeste ce que j'ai contemplé. Alors, ça c'était le deuxième volet que je ne pourrais pas faire, mais quand on ne passe pas au niveau de la... Mais on verra aussi que les actes sont beaux, en fait. C'est toute la morale, la bonté de nos actes. Ouais. Eh bien, vous voyez, le monde que nous recevons comme un don, quel va être l'acte le plus profond que nous allons faire ? C'est de redonner ce monde à celui qui nous donne. Et c'est toute l'offre... Ouais, quel est le but de notre vie ? Quel est le but de notre travail ? C'est la partie que je ne pourrais pas travailler. Oui. Quelle est l'œuvre que nous faisons ? Eh bien, c'est que face à la conscience du don, tout travail, que je sois médecin, que je sois ergothérapeute, professeur, etc., c'est de rendre à Dieu ce qu'il a donné. Oui. Notre travail est une offrande. Oui. C'est ça la dimension sacerdotale de notre baptême, tous. Nous offrons à Dieu ce que lui-même nous a donné. Oui. Mais nous l'embellissons par notre travail. C'est magnifique ce que Dieu nous donne comme vocation. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, nous le manifestons, oui, en aidant Dieu à produire le fruit de la terre, en notre œuvre. Et Dieu n'est pas du tout jaloux. Au contraire, oui, Dieu est Dieu, c'est la générosité pure. Et c'est ça l'expérience de la beauté aussi. C'est que Dieu, il se dépense, il se manifeste, il se donne, il rayonne, Dieu. Voyez, Dieu n'est absolument pas jaloux. Et il fait de nous des soleils. Il veut que nous rayonnons, nous aussi, voyez, à travers notre activité, à travers tout ce que nous faisons. Et il n'y a pas de concurrence avec Dieu, voyez. Alors, je sais que c'est pas très écologique, mais c'est un texte de Ratzinger qui me revient à la tête. Voyez, Ratzinger, il montre cette générosité de Dieu. Il dit, mais regardez, combien de spermatozoïdes pour un seul qui va féconder un ovule. Il dit, mais et voilà, derrière, voyez, c'est des milliards, je crois. Hein. Il y en a un seul, et les autres, ils vont tous mourir. Un seul, voyez. Il y a une générosité, voyez, et ça, c'est la beauté, voyez. Aussi, il y a une sorte d'expression, d'expansion. Et voyez, et Dieu n'est pas jaloux. Que par nos actes, j'essaie de terminer, mais il faut y aller près. Par nos actes, ce que nous faisons, c'est nous participons à cette beauté de Dieu en rendant beau le monde. Vous vous rendez compte que d'abord, ce que vous faites comme travail, la dignité de personne humaine, le fait que vous travaillez, c'est pas que vous produisez des choses ou de la richesse ou des trucs comme ça. C'est pas ça qui est problème, parce qu'il y en a qui ne produisent pas. C'est que vous embellissez le monde, vous entrez dans l'action de grâce des créatures pour Dieu, vous donnez voix. Est-ce qu'une créature ne peut pas faire, nous pouvons le faire, voyez, parce que nous sommes intelligents, parce que nous savons ce que nous faisons. Voyez. Et ça, c'est un des grands rôles de l'homme, voyez, à travers le travail de la matière, à travers l'œuvre que nous faisons, d'élever, d'exaucer. Nous disons merci à Dieu, et à travers nous, ce sont les créatures qui le disent. Voyez, ce qu'elles veulent. Et ça, c'est la beauté. Voyez. Je me suis emballé, mais c'est la partie que je me vais. Regardez ce que dit Schoenberg. Il n'a pas seulement rétabli, donc Jésus, hein, Jésus n'a pas seulement rétabli la beauté originale de la création perdue et profanée par le péché et le mal. Vous voyez, c'est très beau aussi de voir le péché comme laideur. Et pas comme catégorie morale, d'avoir du permis défendu, etc. Voyez, qui était... Non, mais péché, c'est en laidir, vous voyez. C'est m'enlaidir. On n'aime pas le lait. Hein, allez habiter dans votre poubelle. Ah, ben voilà. Personne ne veut. Mais... Bon. J'avoue que l'image est un peu. On n'accélère pas trop, c'est pas. Il a apporté en sa propre personne la source de toute beauté. Ça, c'est beau, ça. De lui s'épanchent sur le monde les eaux vives de la beauté. Et toutes les beautés du monde, qu'elles soient beautés de la nature, de la vertu ou de l'art, sont des rayonnements de sa beauté. C'est pour ça, vous voyez, par exemple, la liturgie, elle ne doit pas être empesée, vous voyez, mais la liturgie, elle doit être belle. Pourquoi ? Parce que, à travers la... Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la liturgie, on utilise beaucoup de matière. Toute la création, tout le cosmos est appelé. Il y a de la cire, hein, voilà. Pas ces espèces de bougies au gaz. Excusez-moi, pourtant je suis pas un... Mais oui, il y a de la cire, il y a de la lumière, il y a du minéral dans l'autel, il y a du bois, il y a du tissu, et du tissu riche, oui, il y a de la couleur, il y a de l'ondoiement. Tout le cosmos est appelé, oui, et comme transfiguré. Pourquoi ? Mais parce que la beauté va venir, elle est là. Et elle transfigure tout le cosmos. Elle est la source de tout cela. Voyez. Donc des belles liturgies, ce n'est pas de l'esthétisme. C'est pour aller à la rencontre de celui qui est la source de la beauté. Voyez. J'ose vous proposer une conviction qui est une intuition dont je crois qu'elle se vérifie de mille manières. Là où est le Christ, là est la beauté. Là où les cœurs, les esprits, les vies s'ouvrent au Christ, là les vannes de la beauté s'ouvrent et se déversent comme des flots vivifiants sur un monde avili par le péché, défiguré par la laideur du mal. Et c'était le troisième moment de mon intervention. Il faudra se pencher sur ce qui est le plus beau fruit de la beauté du Christ, la sainteté. Et oui, car quel est le rayonnement de la beauté du Christ ? C'est la sainteté. Il faut aller prier, c'est ça ? C'est fini, hein. J'avais des choses à dire sur la défiguration du Christ. Bon, non, mais je vais terminer là, parce que tout le monde en a marre. Ça. Ouais. Ouais, ça, là, voilà. Donc, 5 minutes encore ? Je reviens sur le Christ, parce que vous pourriez faire l'objection, vous voyez. Vous avez Isaïe 53, 2. Hein, c'est un texte qu'on lit le vendredi saint, et qu'on applique au Christ, bien sûr. Hein. Donc, ce serviteur souffrant, mystérieux, hein, de l'Isaïe. Il était sans beauté, ni éclat, pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. Donc je voudrais voir avec vous, voyez, quel est ce paradoxe que de la beauté du Christ dans sa défiguration même. Ouais. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Qu'est-ce que ça... Parce que bon, on ne peut pas dire que sur la croix, Jésus est beau. Voyez. Et pourtant, on va pouvoir le dire. Mais quel est ce mystère qui nous est révélé ? Alors, je crois que dans la passion du Christ, voyez, l'expérience du beau a reçu une nouvelle profondeur, voyez, un nouveau réalisme. Celui qui est la beauté en personne, hein, comme on a vu, hein, parce qu'il est Dieu qui s'incarne, a accepté d'être frappé au visage, d'être couvert de crachats, d'être couronné d'épines. Et si vous avez été à Turin et que vous avez pu voir le sphère, j'ai pu le voir une fois, vous avez déjà vu le sphère de Turin déployé ? C'est impressionnant, c'est vraiment, on fait une expérience... T'as pas été impressionné? Bon, c'est pas moi, j'ai... En tout cas, c'est émouvant. Hein?
J'étais un peu.
Ah, c'est ça. Ah, bah oui. Or, on doit dire, je crois qu'on peut dire que c'est dans ce visage défiguré que la vérité de la beauté apparaît véritablement. Pourquoi? Parce qu'à travers ce visage défiguré de Jésus sur la croix, c'est la beauté de l'amour qui apparaît. Mais de l'amour qui va jusqu'au bout. L'amour qui est plus fort que le mensonge et que le violence, que la violence. Et donc celui qui a perçu cette beauté du Christ défiguré, il sait que malgré tout, c'est la vérité et non le mensonge qui est la dernière parole du monde, en fait, instance du monde. Vous voyez, parce que ça c'est un peu l'effet négatif, vous voyez, parce que nous sommes pécheurs, nous savons aussi que la beauté peut être détournée de son but, de son rôle, hein, et elle peut devenir quelque chose d'ambigu, et elle peut être une œuvre puissante de séduction. Mais pour, non pas pour attirer vers Dieu, mais pour attirer vers soi. Vous voyez, on est tous des narcisses en puissance. Voilà. C'est là où on peut sombrer dans un certain esthétisme. L'attrait esthétique, en fait, est une sorte de culte idolâtrique. Enfin, je trouve que c'est sans jugement, hein, parce que, mais vous voyez, c'est pas sans lien que la chirurgie esthétique s'est beaucoup développée avec Hollywood, avec les acteurs. En fait, vous voyez, c'est lié, quoi. Il faut rester éternellement jeune, éternellement beau, vous voyez, pour que les gens continuent de tourner autour de nous. Je lisais un article la dernière fois, c'était... Je ne sais pas pourquoi je lisais ce truc-là. Je lis des trucs des fois, je ne sais pas où je les trouve. En fait. Et alors, il disait qu'à partir de 40 ans, une femme, enfin une actrice hollywoodienne, c'est comme un Kleenex, qu'on la jette. Vous voyez. C'est terrible. Parce qu'elle ne répond plus au canon esthétique. Et puis alors, il y a une telle flopée de jeunes filles qui arrivent là, pour nourrir le Moloch hollywoodien. Vous voyez. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font refaire la peau, elles se refont tendre, etc. Enfin oui, c'est terrible. Alors c'est un peu sous le mode de là. Mais vous voyez le fruit de l'arbre était séduisant à voir. Voyez. La tentation de Satan, elle a quelque chose à voir avec la beauté aussi, voyez, mais la beauté détournée, vous voyez, la séductrice. La femme, quoi. C'est une blague. Vous voyez, la beauté démoniaque, elle singe Dieu. Vous voyez, bon, mais voilà, vous voyez, c'est le principe de la publicité. C'est pas, mais nous-mêmes aussi, on voit bien des fois comment on est séducteur. Des fois, quand on veut arriver à nos buts, on est très capable d'entrer dans la séduction. Pas simplement physique, mais aussi de nos actes. Vous voyez, bon. Et on détourne, en fait. Voilà. Et donc, vous voyez, Jésus, en acceptant de se laisser défigurer, lui qui était la beauté en personne, vous voyez, il restaure en même temps la beauté, il nous révèle la monstruosité d'une beauté détournée d'elle-même, vous voyez, et en même temps, il va restaurer cette beauté et cette bonté. Vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'en donnant sa vie pour nous, en acceptant d'être défiguré, il rattache de nouveau, vous voyez, la beauté comme éclat et splendeur du vrai et du bien. En fait, le péché, vous voyez, d'une certaine manière, c'est quand on sépare ce qui devrait être inséparable, c'est-à-dire la beauté de la vérité et du bien. Normalement, tout ce qui est vrai et bien se manifeste dans l'éclat d'une certaine beauté. Le péché, ce qui va mal dans notre monde, c'est qu'on peut très bien avoir la beauté, mais derrière, ça ne manifeste pas la bonté et la vérité. Oui. Et Jésus, ce qu'il fait sur la croix, il rattache tout. Il refait le nœud. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre que la vérité est celle de l'amour, celle du don, en fait. Un amour qui se donne, un amour qui rend grâce, un amour qui s'émerveille, un amour qui remercie. Et donc on pourrait dire peut-être que le Christ sur la croix, c'est paradoxalement la plus haute œuvre esthétique, vous voyez, la plus belle qu'il n'ait jamais été donné de voir, la plus saisissante et la plus blessante aussi. Et donc je voudrais terminer par cette phrase, vous voyez comment d'un martyr orthodoxe, un prêtre orthodoxe martyr, je ne sais pas s'il était prêtre Florentskis, enfin. Et alors, il commente cette phrase de Marc, de Matthieu, qu'on avait d'ailleurs à la messe dimanche. Hein. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Voyez, et, après, voyez. Et de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, ce que vous faites de bien, en voyant vos actes bons, en fait. Hein, voilà. Et voilà comment il commente, Florentskis. Vos actes bons, ce que vous faites de bien, hein, c'est notre avis, ne signifie pas en réalité actes bons au sens philanthropique et moraliste. Mais c'est vrai qu'en grec, c'est takala erga, un kalos takala erga. Donc le Christ ne dit pas en voyant ce que vous faites de bien, mais en voyant vos actes beaux. Ouais. Et dans la Bible, hein, vous voyez, quand dans la Genèse, quand Dieu dit vie, et Dieu vit que cela était bon, en fait, c'est Dieu vit que cela était beau et bon. C'est kalos kagatos dans la traduction de la Septante. C'est bien et bon. Et l'hébreu, c'est plutôt le sens de la beauté. Oui. Donc, c'est ce que dit Florentskis. Vous voyez, takala erga veut dire acte beau, révélation lumineuse. Vous voyez, manifestation. Vous voyez, on a vu, hein, la beauté, c'est toujours quelque chose qui manifeste. Révélation lumineuse et harmonieuse de quoi ? De la personnalité spirituelle, c'est-à-dire de votre vie intérieure. Surtout. Un visage lumineux beau, d'une beauté qui donne à la lumière intérieure de l'homme de se répandre à l'extérieur. En fait, quand est-ce que nous sommes beaux ? Quand ce que nous faisons manifeste ce qui anime nos intentions. Et bien, le fait que nous voulons faire le bien, le fait que nous voulons vivre dans la vérité, c'est ça le saint. Vous voyez, il rayonne la beauté de ses actes, manifeste la sainteté, la pureté de son cœur, voyez, manifeste ce qui nous anime véritablement. C'est ça que... Ah oui, c'est exigeant, hein. C'est pas, j'ai pas fait ça, ou j'ai un petit peu franchi la ligne. Non, vous voyez, c'est quelque chose de plus, de plus existentiel, vous voyez, de qui nous prend trip. C'est alors que, vaincu par cette lumière irrésistible, les hommes rendent gloire au Père Céleste, et son image resplendit ainsi sur la terre. Vous voyez, le saint, par ses actes, parce qu'il est, parce qu'il manifeste, ouais, rayonne d'une certaine manière, c'est son intérieur, cette union qu'il vit avec Dieu, cette bonté de son âme, de son cœur, ouais, qui d'une certaine manière témoigne, ouais, et convertit les gens, ouais, pour les attirer à celui qui est la beauté, ouais, la bonté, la vérité, qui est Dieu lui-même. Et bien, c'est ce à quoi, ouais, nous sommes appelés aussi. Par toute notre vie, que nos actes rayonnent, voyez, notre bonté, notre beauté, mais qu'il rayonne, qu'il témoigne d'une autre, de rayonnement de Dieu en nous. Ouais. Alors comment le vivre ça? Je crois en nous unissant à celui qui est la beauté, comme disait Sean Moore. Ouais. Et l'oraison, vous voyez, la prière silencieuse qu'on propose, vous voyez, de rencontrer souvent, quotidiennement, Jésus, vous voyez, dans un long temps, ben c'est pour nous unir à la beauté, vous voyez. Et cette beauté, elle transforme nos cœurs, vous voyez, elle purifie nos cœurs, elle nous rend beaux, elle nous donne le sens de la beauté, vous voyez, de faire de notre vie quelque chose de plein, à travers des actes rayonnants. Et ce qui est magnifique, c'est que même défiguré, même ne répondant pas je ne sais pas si vous avez déjà croisé des saints, moi je pense que j'ai eu l'occasion de croiser une ou deux personnes qui vraiment étaient pleines de Dieu, etc. Mais voilà, physiquement, c'était pas ça. Enfin, voilà, ça rentrait pas dans les canons esthétiques. Et pourtant, il y avait une beauté qui émanait de ces personnes. Quelque chose, et une beauté, vous voyez, qui attire, et qui vous donne, ce que je vous disais, cette espèce de nostalgie d'un monde lumineux, rayonnant, voilà, qui est non défiguré, etc. Et qui en fait, à travers eux, ben, c'est Dieu qui nous attire. Vous voyez. Vous savez que chez les orthodoxes, hein, la transfiguration, hein, c'est une des plus grandes fêtes pour eux. C'est plus grand que Noël. Et ils appellent ça la fête de la beauté. Alors c'est intéressant parce que le terme beauté n'apparaît absolument pas dans le texte des évangiles. Mais pour eux, c'est la fête de la beauté. C'est ce de rayonnement de Jésus, vous voyez, qui est le rayonnement de la divinité, de la beauté, mais qui rayonne sur les apôtres aussi. Voilà, pour reprendre les textes. Oui, Patrick.
Ça veut dire que contempler la beauté, c'est être davantage en communion avec ce qu'on contemple.
Oui.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que la beauté est-elle un indicateur, comme un feu vert, pour nous dire « Ok, on peut communier avec ce qu'on contemple ?»
Oui, si c'est vraiment le rayonnement de quelque chose, d'une bonté, d'une vérité, ouais. Oh, bah oui, bien sûr.
Donc l'objectif, ce que vous avez dit au début, il y a un cosmos, c'est être en communion avec...
En tout cas, alors communion, oui, c'est pas embrasser les arbres et tout après. Hein, je sais pas comment tu comprends, mais
après il y avait Saint François qui était.
Oui, mais je pense que l'expérience de la beauté, ouais, cette nostalgie, vous avez vu aussi que l'expérience de la beauté, c'est toujours une expérience qui, en même temps, est intellectuelle, enfin spirituelle, et en même temps sensible. C'est très mystérieux. Ce qui plaît à la vue, dit saint Thomas, c'est là où il dit c'est la splendeur de la forme, la splendeur forme. Donc c'est toujours, il y a toujours cette espèce de rayonnement, donc de manifestation, donc qui vient toucher nos sens, et en même temps il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence, vous voyez, d'un équilibre, d'une union, d'une unité qu'on voit, etc. Je pense qu'effectivement on a à retrouver ça, c'est-à-dire que dans le monde, c'est pas un chaos. Le monde, c'est pas d'abord... voilà, quand je vois un fleuve qui descend d'une montagne, je prends l'exemple d'un philosophe célèbre, c'est pas d'abord l'analyse du nombre de kilowatts que je vais pouvoir extraire de la force motrice que va faire tourner une turbine à cause de cette eau. Et non. Vous voyez, d'abord, c'est pas regarder l'exploitation, etc. C'est, à travers l'expérience de la beauté, c'est de voir que nous faisons partie d'un univers, d'un cosmos, de quelque chose qui est extrêmement harmonieux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, qui a une unité, en même temps une unité dans une diversité, avec une hiérarchie des êtres, etc. C'est-à-dire la création telle que Dieu la veut, quoi. Alors il y a tout ça, oui, et je trouve aussi retrouver une certaine simplicité. Le problème il faut les prier. Mais vous voyez, il me semble un des problèmes de l'art aujourd'hui, pas chez tout le monde, hein, mais chez beaucoup d'auteurs, c'est que soit c'est un art qui est extrêmement intellectuel, extrêmement conceptuel, donc il n'y a plus d'émotion. Bon, j'aime beaucoup Kandinsky, hein, c'est très abstrait, mais bon, c'est génial. Kandinsky. Mais voilà, ou Rothko, par exemple, je trouve que Rothko, c'est un peintre extraordinaire. Bon, c'est absolument pas figuratif. Je ne sais pas si vous connaissez Rothko. C'est suicidé, malheureusement, il est mort. Mais c'est magnifique, sa peinture. Enfin, sa peinture, moi, me parle, me trouble énormément. Et c'est que des bandes de couleurs comme ça. Ou alors, c'est vraiment, c'est il y a une sorte de fascination pour le mal, pour la laideur. Je sais pas si, bon, par exemple, je trouve qu'un qui l'incarne magnifiquement, c'est un peintre anglais, hein, qui est Bacon, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Bacon. Ouais, il s'appelait Bacon. Alors, bon, enfin, la peinture de Bacon, c'est très laid, quoi. C'est très laid. Ça montre, enfin, comment dire. Mais je pense que c'est lié aussi aux expériences du XXe siècle, comme ce qui s'est passé à la Shoah, ou le communisme, enfin, les charniers, etc., quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de défiguration. On va beaucoup montrer la défiguration de l'homme. C'est-à-dire que le mal, en fait. Oui. Et du coup, on oublie, donc il n'y a pas la beauté, etc. Donc peut-être que c'est plus difficile de percevoir cette beauté aujourd'hui, mais je pense qu'elle est... En tout cas, vous voyez, c'est vraiment... Et le pape insiste, François insiste, Benoît XVI y insistait beaucoup, François y insiste encore énormément. Ils appellent ça la voie de la beauté, c'est-à-dire c'est vraiment un chemin possible pour attirer les hommes à cette transcendance, pour les attirer vers Jésus, etc., à travers la voie de la beauté. Et vous voyez bien, c'est pas simplement une beauté esthétique. On n'est pas, moi, j'ai rien d'un Picasso ou d'un Van Gogh. Hein, j'ai rien à faire de mes 10 doigts. Mais la beauté d'une vie à travers une bonté, une vérité qui se manifeste, etc., qui va attirer les gens. Vous réagissez pas. Alors, je sais jamais si c'est du lard ou du cochon. Mais vous avez le droit de me rentrer dedans. Hein, ou de... Tout le monde est mort, en fait. C'est fatigué. Il faudrait faire ça le matin.
C'est qu'il y a une nécessité de contempler de la beauté, mais c'est pas tellement trop pour.
Ah, mais je crois que c'est ta raison. Alors, ça, je pense que nous avons absolument besoin de beauté. Ah, mais ça, il faut, bien sûr. C'est pas de l'esthétisme, encore, voyez, mais vous comprenez la beauté telle qu'on en a parlé. Absolument. Comme moi, je peux pas vivre une journée sans un carré de chocolat. Il faut faire tous les jours une expérience de la beauté. Hein. Enfin, une expérience. En tout cas, il faut chercher la beauté. Ouais. Il faut être des chercheurs de beauté. Ouais. Il faut être des chercheurs de beauté. Et surtout, il faut découvrir la beauté dans les gens. Ouais. Moi, je suis admiratif tous ceux qui travaillent dans ouais, avec des les SDF, les gens cassés, les gens brisés, etc. Qu'est-ce que c'est si ce n'est leur révéler leur dignité, c'est-à-dire leur révéler leur beauté cachée. En disant, mais attends, tu crois que t'es pété, tu crois que la société t'a mis de côté. Mais non, mais en fait, regarde, tu es beau. Tu es beau. Mais c'est à travers quoi? Comment vous montrer à une personne qu'elle est belle, qu'elle est digne? Vous voyez, moi j'ai une grand-mère de 107 ans, etc. Elle ne peut plus grand faire grand-chose, mais c'est en la lavant. C'est en prenant du temps pour la laver. Je ne sais pas ce qu'elle dit, elle ne se souvient même plus de qui je suis. Mais vous voyez, quand on prend soin des personnes âgées comme ça, c'est à travers nos... Ça, et bien là, il y a quelque chose de la beauté de la personne qui est révélée, qui demeure. C'est sûr que... La beauté a quelque chose de l'ordre de la gratuité, comme je disais, vous voyez, du don, etc. Donc, dans une société de plus en plus mercantile ou consumériste, etc., et on transforme tout en objet. Vous voyez. Pour moi, c'est fondamental. Il faut redécouvrir ça, ce sens de la contemplation. Comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que les choses sont. Nous sommes dans un monde où nous n'avons plus que des objets. C'est-à-dire nous fabriquons, nous consommons et nous jetons. Je vais prendre un exemple très simple. Les enfants, on est en train d'objectiver les enfants. Puisqu'on va les faire par éprouvette de plus en plus. Enfin, et vous voyez, et c'est même plus, vous voyez, on n'accueille plus un enfant comme un don, comme quelque chose de gratuit. C'est le droit de l'enfant, d'avoir un enfant, vous voyez. Et donc, c'est quoi? Je fais un objet, je fabrique, je peux le faire, donc je le fabrique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le consommer, mon enfant. Alors, bon, vous voyez bien, d'une manière symbolique. Alors, en même temps, et bien, je le jette aussi. Vous voyez, quand on n'est plus utile, qu'est-ce qu'on ferait? On nous euthanasie. Je pense qu'on a quelque chose d'autre à apporter. Oui, il faut se révolter, se rebeller contre ce monde qui est objectiviste, qui rend tout objet. Oui. Où il n'y a plus de beauté possible. Et d'où la contemplation, c'est important. S'arrêter, la vie de prière, la vie liturgique, la vie sacramentelle, la vie chrétienne. Oui, là, il faut aller prier. Là.